Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous a donné hier les scores Médiamétrie pour la France, plus 10% en un an. Dans le journal des médias, on va vous donner les scores pour l'Île-de-France qui sont tombés hier et c'est encore mieux, beaucoup mieux. On vous dit ça dans une minute dans le journal de Charles Decamp. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture comme la gastronomie. Laurent Mariotte va nous dire tout le mal qu'il pense de cette nouvelle mode, le batch cooking. Et Eva Rock, tout le bien qu'elle pense d'une initiative musicale de la mairie d'Angers. Sans oublier Bertrand Chameroy qui a passé en revue la communication gouvernementale d'hier. Il y aura du Jean Castex avec des vrai morceau d'Olivier Véran dedans. Notre infomédia se penche sur les newsletters, ces bulletins d'informations envoyés dans nos boîtes mail. On les croyait mortes, c'est tout le contraire. Exemple, Brain Magazine qui devient Brain Matin. Et nous serons avec sa créatrice Anaïs Carayon, également Jean Abiatessi, qui a créé le très curieux, à tous les sens du terme, bulletin. Puis nos invités, Laurie Tillman, Miss France 2011, devenue une vedette de la télé, comme on disait du temps des Carpentiers. Elle présente un grand show en hommage aux variétés des années 70. Allez, viens, je t'emmène chez les Carpentiers, c'est le titre. C'est ce soir à 21h sur FR3. C'est comme ça qu'on disait du temps des Carpentiers. Enfin, le contre-ténor à la voix d'ange, c'est comme ça qu'on l'appelle dans Télérama, Philippe Jaroussky, pour son nouvel album La Vanita del Mondo, je ne traduis pas, tout un programme. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Quel programme ! Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Un départ emblématique à l'Express, la guerre Canal Mediapro s'envenime, une légende reprend du service et la meilleure actrice du monde est française.
Waouh, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Eh bien une chose est sûre, ils n'étaient pas nombreux du tout devant France 2 qui se classe 5e. Son magazine politique Vous avez la parole n'a fédéré que 1 100 000 téléspectateurs pour 5,7% du public. Loin devant, TF1 s'est imposé avec sa série Balthazar qui est malgré tout encore en baisse. Au compteur 5 200 000 téléspectateurs, soit 25% du public et un très bon 25% sur les femmes de moins de 50 ans. France 3 est deuxième avec sa case cinéma. Le film Gone Girl a été suivi par 2 400 000 personnes, soit 12% du public. Et c'est M6 qui prend la troisième place avec la série américaine 911 Lone Star, toujours faible avec 1 600 000 téléspectateurs et 7% de part d'audience. Voilà pour le podium du jour.
Culture Média.
Et Charles, à propos d'audience, un mot des audiences radio. Hier, j'ai dit un peu rapidement que la matinale d'Apolline de Malherbe, qui a succédé à Jean-Jacques Bourdin sur RMC, avait perdu 400 000 auditeurs sur un an, ce qui est inexact. C'est RMC, la station tout entière, qui a perdu 400 000 auditeurs. La matinale a perdu, quant à elle, 162 000, ce qui est moindre. Ça représente 10% de baisse. Il faut noter qu'il y a un an, la matinale de Bourdin avait perdu, elle, 18%. Et puisqu'on en est aux audiences radio, hier sont tombés les chiffres de Médiamétrie pour l'Île-de-France, c'est-à-dire Paris et sa région. Europe 1 marque un rebond sur un an, 41 000 auditeurs supplémentaires, plus 0,2%. Et au passage, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Culture Média progresse de 26% sur un an, un quart d'audience en plus. Donc vraiment, merci à toutes et tous de nous écouter, toujours plus nombreux. Continuez. J'attendais un tapis et on commence. J'attendais le journal des médias, c'est maintenant avec les vrais chiffres d'abonnement à la chaîne Téléfoot.
Et oui, ils ne sont que 480 000, révèle l'équipe ce matin, bien loin des 600 000 annoncés par Mediapro le mois dernier et encore plus loin des 3 millions et demi nécessaires à l'équilibre financier du groupe.
Et dans ce contexte, Mediapro attaque Canal+.
Le groupe sino-espagnol assigne son concurrent en justice pour abus de position dominante et pratiques abusives et déloyales. Mediapro accuse Canal+ de vouloir l'évincer du marché des droits du foot français. Il pointe du doigt l'impossibilité depuis l'an dernier de trouver un accord pour que Canal+ distribue sa chaîne Téléfoot. Contacté par Europe 1, aucun des deux groupes n'a souhaité réagir.
Mais on se souvient que Canal+ avait déjà attaqué Mediapro pour quasiment la même raison.
Oui, c'est ça qui est incroyable. En septembre dernier, Canal+ a effectivement porté plainte contre Mediapro pour inégalité de traitement. Canal+ a assuré que Mediapro avait posé des conditions surréalistes pour que Canal ait le droit de proposer la chaîne Téléfoot à ses abonnés. Selon lui, il serait impossible que les autres fournisseurs d'accès qui, eux, ont signé avec Mediapro et accepté ces termes. En résumé, Canal+ prétend que Mediapro l'aurait volontairement empêché de distribuer Téléfoot pour lui nuire et Mediapro prétend que Canal+ ne veut pas distribuer Téléfoot pour l'affaiblir et l'exclure du marché français.
Affaire à suivre. L'article 24 de la loi très controversée dite sécurité globale va être réécrit par une commission indépendante.
C'est le Premier ministre qui l'a annoncé à l'issue d'une réunion hier avec quelques représentants de syndicats d'éditeurs de presse et l'ONG Reporters sans frontières. Cette commission sera dirigée par le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Burguburu. Elle doit rendre ses travaux fin décembre, avant l'examen du texte au Sénat.
Mais l'annonce de Jean Castex n'a pas franchement calmé les inquiétudes.
Non, les syndicats de journalistes et sociétés de journalistes avaient boycotté la réunion organisée hier par le Premier ministre. Ils réclament purement et simplement le retrait de 3 articles du texte, dont l'article 24, qui prévoit d'encadrer la diffusion d'images des forces de l'ordre. Hier, sur LCI, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette, a assez bien résumé la situation.
Il faut que le gouvernement ne se trompe pas d'adversaire. C'est-à-dire, c'est pas normal que sur une loi sécuritaire, il ait le Figaro face à lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que là, il y a eu effectivement de la précipitation chez Gérald Darmanin. Castex ne veut pas complètement le démentir et encore, ou le déjuger plutôt, et encore qu'il a quand même un peu commencé à le faire. Mais il faut arrêter cette séquence parce qu'elle va être complètement contre-productive pour le gouvernement.
Et puis Charles, vous nous annoncez le départ d'une figure des médias, le départ de Christophe Barbier.
Oui, l'homme à l'écharpe rouge quitte l'Express après quasiment 25 ans de collaboration, dont 10 ans à la tête de la rédaction. Il a de nouveaux projets de théâtre en préparation et même un livre à paraître. Son départ est donc un choisi et non contraint, comme il l'a assuré à Louise Bernard.
C'est ma décision en parfaite concertation avec la direction. J'étais déjà beaucoup investi ailleurs, hein, puisque je n'écrivais presque plus dans le journal, sauf de temps en temps des petites chroniques théâtre ou livres. Donc c'était un peu la nature des choses. Tout cela s'est fait en douceur. Il y a eu plusieurs formes de départ ces derniers temps à l'Express. Il y a eu un plan social, il y a eu un guichet de départ, une clause de cession. Donc moi, voilà, je me suis inscrit aussi dans cette vague-là. Il est normal qu'une génération nouvelle arrive, que des compétences nouvelles arrivent. Ce journal L'Express n'a jamais autant réussi que quand il a été soucieux de son 109.
Une légende de la boxe reprend du service ce week-end.
À l'âge de 54 ans, Mike Tyson va remonter sur le ring 15 ans après son dernier match. Ce sera à suivre sur la chaîne Action à partir de 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Iron Mike, comme il est surnommé, affrontera un autre grand nom de la boxe, Roy Jones Jr. en direct de Los Angeles. Charles Bietri, qui commentera le match avec Mathieu Kassovitz, a expliqué à Louise Bernard ce qui avait poussé Mike Tyson à reprendre du service.
C'est très difficile pour un boxeur qui a annoncé sa retraite de ne pas avoir envie de remonter sur un ring. La lumière, les paillettes, l'excitation, l'adrénaline, la violence. Et en règle générale, au bout de 2 ans ou 3 ans, ils ont tous envie de reboxer. Ce qui est étonnant, c'est que Mike, c'est au bout de 15 ans. Il explique d'un seul coup, quand on m'a dit qu'il y avait une possibilité de reboxer, c'est comme une lumière qui a fait bang dans ma tête. J'ai retrouvé des sensations et j'ai eu envie.
Sport toujours avec le retour ce week-end du biathlon sur la chaîne L'Équipe.
Pas moins de 14 heures de biathlon au programme ce week-end sur la chaîne sportive. Ça commence dès samedi à 10h. C'est le coup d'envoi d'une saison resserrée à cause du Covid. Et L'Équipe compte beaucoup sur cette compétition qui lui permet régulièrement de battre des records d'audience. Comme chaque année, c'est Anne-Sophie Bernadi qui assurera les commentaires. Elle a expliqué les raisons de ce succès à Louise Bernard.
D'abord, c'est un sport pas compliqué à comprendre pour les novices. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de suspense. Il y a une réelle dramaturgie dans une course avec voilà, plusieurs passages sur ce pas de tir qui, à chaque fois, rebattent totalement les cartes. Et puis, ce système de Coupe du Monde, de circuit, ça crée un véritable feuilleton. On s'attache à ces personnages et on est impatient d'être à l'épisode suivant. Et puis, on va pas se mentir, le biathlon doit énormément son succès à une équipe de France très performante. Je suis certaine même que sans Martin Fourcade, le biathlon n'aurait pas un tel succès en France.
Un succès dû en partie à l'incroyable parcours de Martin Fourcade, donc, mais le sportif a pris sa retraite l'an passé. La saison à venir sera donc la première sans lui, mais il laisse l'équipe de France dans une excellente dynamique, avec au premier rang des favoris, Quentin Fillon-Maillet.
Et puis il y aura aussi de la compétition dimanche sur France 2, mais pas tout à fait le même genre.
Non, pas tout à fait. Rendez-vous à 17h pour l'Eurovision Junior. 12 pays seront en compétition, dont Valentina qui représentera la France avec le titre « J'imagine ». Alors c'est une édition un peu spéciale à cause de la pandémie. Cette année, tous les candidats ont enregistré leurs prestations un mois plus tôt dans leur propre pays. Mais la directrice des divertissements et variétés de France Télévisions, Alexandra Redamiel, l'assure, tous les éléments qui font le succès du format seront au rendez-vous.
Rien ne change parce que c'est la compétition et la compétition sera là, l'adrénaline sera là, le direct sera là, on sera en direct de Varsovie, Valentina sera dans la green room avec ses danseurs. Donc on aura tout autant la pression et autant vous dire que quand on a tourné tourner la performance de Valentina. On était dans des conditions aussi de compétition. On n'avait pas non plus des heures et des heures pour pouvoir l'enregistrer. Donc on a été aussi stressés. Et c'est dimanche à 17h que tout va se jouer.
Particularité du concours junior, on peut voter pour son propre pays. Vous pourrez soutenir Valentina dès ce soir, 17h, sur le site junioreurovision.tv.
Et on termine avec le classement des meilleurs acteurs et actrices du 21e siècle établi par le New York Times.
Un classement dominé par Denzel Washington et en deuxième position Isabelle Huppert. La comédienne française devance Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves ou encore Nicole Kidman.
Merci beaucoup Charles Decan. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Dans un instant, l'info média du jour a parlé du renouveau des newsletters, ces compilations d'informations envoyées par mail. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Vous en recevez peut-être chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Les newsletters, ces bulletins d'informations envoyés dans nos boîtes mail, ont été donnés pour mortes plusieurs fois, notamment lors de la création des premiers réseaux sociaux il y a une quinzaine d'années. Mais elles résistent, ces newsletters. Elles font même mieux que ça. Elles deviennent une solution pour de nombreux journalistes déçus ou fatigués des règles imposées par les géants du net. Quels sont leurs atouts? Comment font-elles pour se financer, mais également pour exister et pour se démarquer dans un secteur très concurrentiel? Pour répondre à ces questions, nous recevons deux invités à Culture Média. Bonjour Anaïs Carayon.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la fondatrice de Brain Matin, une newsletter qui va remplacer Brain Magazine, qui était un magazine en ligne qui existe depuis 2007. Il traite de sujets culturels et politiques, sujets de société également, avec un ton drôle et féroce. Le changement va se faire mardi prochain et vous allez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix. Bonjour Jean Abiatessi.
Bonjour.
Vous êtes en ligne, en direct avec nous. Où êtes-vous exactement ?
Je suis à publier, c'est toute la saveur de l'affaire, c'est je publie, bulletin à publier.
P-U-B-L-I-E-R, le nom d'une petite ville, c'est pas commun. Vous avez travaillé en Suisse pour le journal Le Temps et pour le site ID.news et vous avez créé Bulletin cette année, une newsletter hebdo, un petit concentré d'infos curieuses et optimistes, je vous cite. Elle est livrée chaque lundi matin depuis juin dernier. Les newsletters d'information se comptent par centaines, voire par milliers. Il y a des généralistes, il y a des pointus, des très pointus. Il y en a pour tous les goûts. Avant de parler de vos projets, quelle est à vous votre définition du newsletter ?
Une newsletter, c'est un objet numérique, un magazine numérique envoyé par la boîte mail à des abonnés.
Jean Abiatessi, cette définition vous va ?
Elle me va très bien et j'ajouterai une chose. Souvent, quand on me demande ce que c'est une bonne newsletter, c'est de l'info et de l'esprit. De l'info d'abord parce que on reste journaliste et il faut apporter de l'info vérifiée, rigoureuse, intéressante et intelligente. Ouais. Et de l'esprit parce que c'est aussi un ton, une façon d'écrire, une façon de dialoguer avec le lecteur. Et c'est les deux ingrédients, il me semble, d'une bonne newsletter.
En quoi est-ce différent des réseaux sociaux ?
C'est en fait la newsletter est un réseau social qui est un petit peu sous-estimé. C'est une manière de dialoguer. Nous, quand on envoie bulletin, on reçoit énormément de mails de gens qui me disent, voilà, il y a une petite erreur, ou alors j'aime beaucoup ce que vous faites, ou allez voir cet article, c'est intéressant. Donc en fait, je pense qu'on sous-estime le mail comme Facebook ou comme c'est une sorte de média qui permet justement le dialogue.
Mais tous les deux, vos newsletters utilisent quand même les réseaux sociaux. Bulletin et Brain, par exemple, Anaïs Carayon, ont des comptes Twitter et Instagram.
Absolument, on va continuer à utiliser les réseaux sociaux, mais à bon escient. En gros, le constat, moi, qui m'a fait lancer la newsletter, c'est un vrai ras-le-bol, notamment de Facebook. C'est-à-dire que Facebook, au milieu des années 2010, a été une manne de trafic incroyable pour tous les sites.
Ouais.
Et l'algorithme Facebook s'est étriqué. Et du coup, la visibilité des médias sur Facebook a diminué. En gros, il y avait un peu un système de... C'est comme si Facebook était un dealer, un dealer de trafic pour les médias. Et pour favoriser le payant, en fait, le post-sponsorisé, il a en fait réduit son algorithme. C'est-à-dire que avant, on avait 20 000 abonnés. Les 20 000 abonnés voyaient, 20 000 fans, on dit sur Facebook, les 20 000 fans voyaient nos publications.
Ouais.
Ça s'est progressivement réduit. Mmh. Et par ailleurs, nous, puisque comme vous le dites, on est un peu impertinent, on a notamment par exemple une page Q qui parle de sexualité en général, de toutes les sexualités, qui n'est pas forcément pornographique, même si on peut parler de porno parce que c'est un sujet de société comme un autre. Eh bien, on est systématiquement puni, shadowban, ou comme on dit, zuqué. C'est-à-dire que carrément, notre page a déjà été supprimée, enfin, bannie une semaine. Mon compte perso, du coup, dans la foulée, est puni, Enfin, il y a un truc complètement hallucinant de censure des médias.
Parce que vous parlez de sexualité, Zucker comme Mark Zuckerberg.
Ouais.
Alors, Anaïs Carayon, on l'a dit, Brain change, fini le magazine en ligne, place à la newsletter quotidienne, ce sera Brain Matin, ce sera à partir de mardi, je vous cite, la bamboche tous les matins dans votre boîte mail, c'est l'un des slogans, qu'est-ce qu'on va y trouver du cul ? Oh,
bah aussi. Non, faut pas le dire parce que sinon on reste d'être banni à nouveau.
C'est vous qui l'avez dit, donc je reprends vos propres termes.
Non, on parle de sexualité, évidemment, ça ouais. concerne énormément de gens et c'est politique aussi la sexualité.
Quoi d'autre ?
On va parler de politique, en fait, nous on a lancé, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais on a vraiment été les précurseurs du LOL politique en France en 2011 avec la page Président. On produisait des formats humoristiques autour de la politique, notamment notre marotte, c'était quand même de se moquer beaucoup du Front National et de la Manif pour tous. Aujourd'hui, on a décidé que la politique, fallait la prendre un peu plus sérieusement avec ce qui se passe. Donc, ça ne veut pas dire qu'on arrête l'humour, ça veut dire qu'on change et qu'on devient plus sérieux. On appelle ça Brain Info et on va faire des vraies enquêtes. On s'instaure vraiment de journaliste politique.
Il faudra s'abonner pour recevoir Brain Matin. Combien ça va coûter ?
Ça coûte, alors, il y a un préabonnement jusqu'au 1er décembre qui est valable un mois à 2 euros.
Ouais.
Et ensuite, ça sera 4 euros par mois.
Pourquoi cette décision d'abandonner le magazine en ligne, donc gratuit, pour une newsletter payante ? Qu'est-ce qui a présidé à votre choix ?
Bah, c'est tout ce que j'ai dit sur le rapport aux réseaux sociaux, qui est très désagréable. Il y a aussi un rapport aux annonceurs qui est complexe quand on fait un magazine comme Brain, qui a un ton particulier, qui est vu comme un magazine cool, mais qui dérange un peu aussi. Il y a quelques années encore, la pub sur Internet, c'était par exemple une marque vient nous taper à notre porte et nous dit « voilà, je voudrais faire une pub chez vous », et c'était des banners publicitaires. Mmh. De plus en plus, ça a été de la production de contenu. Parce qu'on aime faire ça. Nous, on produit des podcasts, on produit des événements. Sauf que pour une marque quelconque, en gros, on devait inventer un concept. Et c'était plus seulement de l'affichage publicitaire. Donc en fait, on devient un peu une agence de pub.
Du brand content,
sous-payé.
Ça s'appelle.
Ouais. Sauf que on est sous-payé et que souvent, les marques ont quand même un petit problème avec notre nom qui est humoristique, impertinent. Donc il y a un rapport un peu qui s'est biaisé au fur et à mesure des années. Et il se trouve qu'on a un gros trafic et qu'on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas être payé pour ce qu'on fait ? Je pense aussi que la gratuité des médias, c'est un peu une utopie des années 2010. Et qu'on voit qu'on y revient. Quoi.
Jean Abiatessi, la gratuité des médias, c'est un peu une utopie des années 2010 ?
Je pense qu'on en a beaucoup eu. C'est-à-dire que pendant, à partir de vraiment, quand les médias sont arrivés sur Internet, on a eu début d'année 2000, on a eu vraiment la gratuité comme règle. Aujourd'hui, on en revient. On voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des médias ont ce qu'on appelle des paywalls, des murs pour s'abonner. Je pense qu'on en revient. Après, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre l'ouverture pour faire découvrir son contenu quand on est un média, et puis la réalité économique, c'est-à-dire être capable de faire payer son lecteur. L'enjeu, c'est vraiment la valeur ajoutée. Est-ce qu'on est capable de produire une information qui apporte soit suffisamment de qualité, soit suffisamment de plaisir pour donner envie de payer 3, 4, 5 euros par mois? C'est toute la difficulté et tout l'enjeu.
Et alors justement, comment ça se passe pour vous qui êtes un newsletter gratuite Bulletin ?
Alors Bulletin, on a fait le choix dès le départ d'être en partie gratuite. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent découvrir Bulletin. Et il y a une partie payante qui est en train d'être mise en place pour justement les abonnés les plus fidèles. Mmh. Donc en fait, on fait rentrer les gens par la gratuité pour faire découvrir le projet. Et pour ceux qui sont vraiment les plus fidèles, les fans, ils peuvent avoir d'autres contenus en payant un abonnement de quelques euros par mois.
Mais pour l'instant, maintenant, comment faites-vous pour vous financer ? Vous faites tout à perte pour la beauté du geste ou est-ce qu'il y a une partie payante ou est-ce que vous avez arrivé à récupérer un peu de publicité ?
Alors la partie payante arrive au 1er janvier 2021. Pour l'instant, le média est jeune, il a été lancé au mois de juin, donc il faut un peu de temps pour que ça se rôde. Et très vite, il y aura un modèle payant avec des abonnés. Donc pour l'instant, c'est à perte, mais à partir de janvier 2021, il y aura une offre payante avec des revenus, je l'espère.
Jean Abiatessi qui a créé Bulletin, une newsletter gratuite. Anaïs Carayon, Brain Matin, qui devient une newsletter payante. Culture Média continue, on les retrouve juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Anaïs Carayon, Brain Matin, c'est une newsletter, ça démarre mardi pour 4 euros par mois. Et puis Jean Abiatessi, il a créé Bulletin, c'est gratuit pour l'instant également. C'est une newsletter qui tombe sur votre boîte mail si vous êtes abonné, évidemment, chaque lundi. Combien d'abonnés justement, Jean Abiatessi, pour Bulletin ?
Alors aujourd'hui, on est à peu près à 12 000 abonnés sur Bulletin, chaque lundi matin à 6h45.
Vous dites que c'est un chiffre flatteur, mais je vous cite, qui ne reflète pas la réalité, c'est-à-dire ?
Non, ça veut dire qu'il faut toujours, quand on parle de chiffres d'audience, que ce soit des pages vues sur Internet ou des abonnés à newsletter, il faut toujours regarder en détail. C'est-à-dire que est-ce que les gens vous lisent réellement ? Donc il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Bulletin et qui ne vont pas vous lire parce que soit le mail tombe en spam, ou soit voilà, ils lisent un exemplaire et puis après ils oublient. Et donc il faut toujours voilà, faire l'effort d'aller voir concrètement quels sont les vrais lecteurs. Et je pense que c'est un réflexe salutaire si on veut aujourd'hui développer un média, de ne pas se laisser leurrer par les pages vues ou par des chiffres absolus et d'aller creuser un petit peu dans le détail.
Ouais, je vous pose la question parce que vous avez récemment expliqué sur Twitter que ce n'était pas le chiffre le plus éloquent, le nombre d'abonnés, mais selon vous, ce qu'il faut retenir, c'est un autre chiffre selon des règles que vous avez vous-même créées, expliquées.
J'ai essayé de regarder quel c'était pour moi un lecteur de bulletin. Un lecteur de bulletin, c'est quelqu'un qui va à la fois revenir au moins une fois sur deux et qui va cliquer sur un lien pour lire un article. Et en partant de cette formule-là, j'ai à peu près, sur 10 000 abonnés, ça me ramène à peu près à 4 300 lecteurs. Donc c'est cette petite arithmétique qui est importante pour connaître précisément son audience et son public.
En parlant de précision, vous avez le profil type de votre ou de vos lecteurs ?
Alors oui, et c'est ce qu'on visait au départ. Nous, on visait vraiment les gens entre 25 et 45 ans, des gens qui ont des familles avec des enfants et qui n'ont pas le temps de lire la presse entre le judo du petit ou la crèche de la grande. Enfin voilà, c'est toujours la vie de famille est compliquée. Ça demande, on n'a pas beaucoup de temps. Et Bulletin a été créé pour ça, pour justement se nicher dans les petits moments creux autour d'un café, dans les transports. Et donc le lecteur, c'est à peu près ça, c'est voilà, un jeune couple plutôt provincial qui a entre 25 et 45 ans et des enfants.
Ça sent le vécu, vous avez des enfants ?
J'ai trois enfants, voilà, donc
et vous avez
j'ai
le temps
très
de
bien
lire
de quoi je parle. J'ai le temps de lire parce que c'est mon métier, mais je pense qu'on sous-estime en fait l'effort ou le fait. Les journalistes en fait pensent souvent que les gens les lisent de manière un peu cérémonielle, il y a le rituel du journal. Et aujourd'hui, toutes les études montrent l'inverse, que le temps pour s'informer se fractionne.
Jean Abiatessi, il y a des milliers, des dizaines de milliers de newsletters dans plein de domaines différents. C'est pas facile d'avoir des chiffres, elles sont toutes envoyées par mail, donc on ne sait pas. On est souvent noyé sous ces mails. Dans ces circonstances, comment se démarquer ?
Alors, ce qui est important, c'est justement d'abord la qualité. C'est-à-dire que si la newsletter est vue comme du spam ou comme quelque chose d'intrusif, c'est gênant, les gens se désabonnent. Donc c'est respecter le lecteur, première règle, avec une information intéressante, pertinente. Et surtout, c'est la régularité. De pas non plus vouloir arroser de mails trois fois par jour, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc l'idée, c'est vraiment que la newsletter devienne un rendez-vous auquel on a plaisir comme lecteur à accéder.
Exemple de sujet dans votre dernier numéro, la chanson la plus ancienne du monde. Elle a 3400 ans. Elle vient d'Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Syrie ou l'Irak. Un hymne à une déesse de la fécondité. On l'écoute. On comprend que ce qui vous intéresse là, c'est pas tant la chanson elle-même que la curiosité, le plaisir. Comment vous savez d'un mot que c'est la chanson la plus ancienne du monde ?
Alors ça, c'est la science qui a montré, les études, les archéologues ont trouvé ça, donc ça c'est des études scientifiques qui ont montré ça. Après, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment joué sur l'aspect curiosité. Je pense que les gens, les lecteurs sont toujours plus curieux que ce qu'on imagine. Et le principe de bulletin, c'est ça, c'est d'affûter leur curiosité et leur donner matière à ça, à aller voir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez soi. Et vraiment, c'est la promesse qu'on fait, nous, à nos lecteurs, c'est, voilà, vous allez être surpris.
La curiosité, c'est aussi un de vos mantras chez Bren, Anaïs Carayon.
Absolument. Depuis toujours, en fait, on a vraiment commencé en 2007 comme un magazine musical essentiellement où on allait, comme on dit, diguer des artistes nouveaux, que ce soit
diguer, ça veut dire creuser.
Ouais, comme les diggers qui diguent des vinyles.
Ouais.
Donc oui, on s'intéresse aux sous-cultures aussi. Il y a un côté un peu gonzo dans ce qu'on fait. Donc oui, on aime bien aller fouiller dans les petits endroits bizarres.
Mais en plus, à la différence de ce que nous racontait Jean Abiatessi, il y a aussi l'humour.
Oui, alors Brain a vraiment explosé en 2010 quand on a lancé une rubrique qui s'appelle La Page Pute. Alors, pute pour putassier, pour
comme ça,
un côté
clair.
Un peu racoleur. Voilà.
Parce qu'on se moquait à l'époque des putaclic.
Voilà, exactement. Et non pas des prostituées que nous respectons grandement. Et du coup, c'est une revue du web un peu dégénérée où on fait rire les gens. En fait, c'est vraiment un truc qui a fait exploser notre audience, qui a fait que Brain est devenu un magazine viral. Et évidemment, on retrouvera cet humour-là dans la newsletter, puisqu'on ne va pas abandonner la page pute. Elle apparaîtra de façon différente, puisque vraiment, là, l'idée du Brain Matin, c'est un magazine extrêmement bien maquetté. Je pense qu'on pousse, en toute honnêteté, les limites du graphisme sur le format newsletter.
Ouais.
Et où il y aura également donc, de la culture, de la politique et du LOL.
Enfin, Brenn Matin, c'est donc le matin. Pourquoi le matin ? Je dis ça parce que la newsletter média d'Europe 1 de Culture Média, c'est à la mi-journée. Quel est le meilleur moment ? Ah bah, qui a raison ? C'est vous ou c'est nous ?
C'est comme le fameux débat, quand poster sur Facebook, quelle est la meilleure heure ?
C'est ma question.
Nous on l'enverra à 11h parce que c'est l'heure où les gens arrivent au bureau pour les gens de la culture, par exemple, qui se lèvent tard.
Ouais. Jean Abiatessi, c'est juste avant 7h bulletin, pourquoi ce choix ?
On a eu beaucoup de lecteurs qui nous ont dit que, voilà, qu'ils aimeraient bien l'avoir le matin tôt, les parents se lèvent tôt, comme vous le savez. Ouais. Et du coup, c'est vraiment le petit moment en fait, de plaisir, quoi, à 6h30 avec un café, voilà, lire bulletin, et puis après on enchaîne sur la journée. Et je pense que la notion de plaisir est importante dans une newsletter. C'est peut-être, on prend peut-être plus de plaisir qu'en allant lire un article, et c'est ça qui est important aussi.
Alors moi, de poser la petite question pupute, il y a de plus en plus de newsletters, est-ce qu'il y en a trop, Anaïs Carayon ?
Bah, après, on choisit de s'abonner ou non. En revanche, oui, je pense que c'est un format qui est qu'au début, en fait.
Ah oui ?
Oui, je pense. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de newsletters gratuites, comme bulletin. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de newsletters payants. C'est vrai qu'on constate quand même aux États-Unis, la newsletter payante est un format qui marche de plus en plus. Alors c'est souvent, par exemple, des journalistes du New York Times qui vont lancer leur newsletter et qui est payante. Mais ouais, c'est vrai que c'est que le début, je pense, du format payant en format newsletter. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean Abiatessi ?
Oui, je suis d'accord sur le principe. Après, je pense qu'il y a, en France, on a de newsletters, on va dire, personnalisés, qui sont pas des automatisés. Si vous voulez, il y en a peut-être, je sais pas, 200. Donc, il y a encore un peu de place. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des newsletters très précises. Par exemple, vous avez, je sais pas, une newsletter qui s'appelle Sinosisme, qui suit l'actualité en Chine. Vous avez une newsletter qui s'appelle Tech Trash, qui suit la technologie. Vous avez vraiment des newsletters de niche. Et ça, c'est important pour comprendre, en fait, l'écosystème. C'est que, aujourd'hui, on voit apparaître plein de petites niches intéressantes. Mmh. Et la newsletter, qui est un média frugal, qui coûte assez peu cher à produire par rapport à un site ou par rapport à une revue, permet, si vous voulez, de toucher un public de niche.
Merci beaucoup. Brenn Matin avec Anaïs Carayon. Ce sera à partir de mardi, 4€ par mois, 2€ seulement pour le premier mois si vous souscrivez avant lundi soir. J'ai l'impression de faire la retape, mais je ne le regrette pas. Jean Abiatessi, bulletin, c'est gratuit. C'est chaque lundi matin dans votre boîte mail. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média.
Merci.
Culture Média continue. Dans un instant, nous serons avec Laurie Tillman. L'ex-Miss France vient nous parler du nouveau numéro de son émission musicale Allez, viens, je t'emmène. On ira cette fois dans les années Carpentier. C'est ce soir sur France 3 et c'est dans quelques instants sur Europe. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Laurie Tillman.
Et bonjour Philippe.
Et bonjour Miss France 2011, reconversion réussie, ce qui est assez rare. Vous êtes devenue journaliste sportive sur Eurosport, je m'en souviens, puis animatrice notamment de la fête de la musique ou plus récemment avec le retour de Surprise Surprise. Et ce soir, vous êtes en prime time, toute seule sur France 3 aux commandes. Avec « Allez, viens, je t'emmène chez les Carpentiers », c'est à 21h. Pour les moins de 40 ans, qui étaient Mariti et Gilbert Carpentier ?
Mariti et Gilbert Carpentier, c'est ce couple de producteurs mythiques qui ont fait vivre la télé pendant 30 ans avec plus de 15 millions de téléspectateurs tous les samedis soirs. Je suis sûre, Philippe, que vous en faisiez partie,
aviez
les yeux qui brillaient.
Vous voulez que je vous dise, je n'avais pas la télé.
C'est vrai, alors... c'est encore une raison de plus pour regarder ce soir et connaître en fait ce que Mariti et Gilbert ont pu créer en termes de variété, de mixer les répertoires comme ça d'artistes qui n'étaient pas du tout censés se croiser. Je pense à un Julio Iglesias et un Clo-Clo, par exemple. Et voilà, Mariti et Gilbert Carpentier, c'est ça.
Et vous venez de répondre un peu à la question suivante. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir ?
Alors ce soir, en fait, on a repris un petit peu avec Daniela Lombroso, donc qui produit cette émission, la recette magique que Mariti et Gilbert avaient tenté de créer, c'est-à-dire des décors, des costumes, des ambiances pour que les acteurs de l'époque, donc je prends Alain Souchon, Jane Birkin qui seront avec nous ce soir, bah, puissent un petit peu se remémorer toute cette nostalgie, ces émissions qui les ont fait naître et connaître. Et la jeune génération, je pense à Louane, je pense à Vianney, je pense à Amir et tant d'autres qui, eux, n'ont pas connu comme moi d'ailleurs ces années-là, mais qui vont se replonger et vraiment essayer de se réimprégner de toute cette magie qui existait à la télé à l'époque et qu'on essaie de faire renaître ce soir.
Gros casting, vous l'avez dit, Birkin, Souchon, Hugo Frey, qui ont connu les Carpentiers et parmi la jeune génération, Amir, Vianney, Louane, Claudio Capéo, Chimène Badi, Dany Briand, Bilal Hassani, Benamar, Patrick Fiori, Elodie Frégé, Grégory Fetoussi, Jérôme Anthony, Antoine Duléry, Isabelle Mergault et même les danseuses du Lido.
Ouais.
Le générique est chanté par Benabar. Le générique prend en compte les Carpentiers. Il est chanté par Benabar et puis un peu façon slam, un peu parlé, un peu chanté par vous-même. On écoute.
Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer.
tellement d'applaudissements qu'on dirait une émission maintenant.
Ambiance foxtrot, ardent.
Et des danseuses partout tout le temps.
Non mais certains vous le connaissez par cœur. Vous étiez en train de chanter en même temps. On peut vous voir sur Europe1.fr.
Non mais moi j'ai, on bosse forcément, donc du coup on intègre des choses, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Benabar, même si c'est quelques petites paroles. Voilà, je suis du genre un peu perfectionniste comme vous, Philippe.
Ouais.
Et voilà, quand je fais un truc, je le fais à 1000%. Donc je voulais être sûr que c'était juste. Donc on a beaucoup répété avec Benabar.
Il y a un orchestre en live ?
Oui.
Contrairement à la version originale, parce que tout était en playback chez les Carpentiers.
Complètement. Là, je peux vous assurer que tout est en live, et ça faisait tellement plaisir aux artistes. Enfin, vraiment, au-delà d'avoir pris un plaisir fou à présenter cette émission, j'ai eu beaucoup d'émotions de voir ces artistes à qui la scène avait tellement manqué, à qui le public, même masqué et pailleté, avait tellement manqué. Et je peux vous dire qu'on vit à la fois des moments très forts, intensément, très drôles, ouais, mais remplis beaucoup d'émotions vraiment ce soir, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vécu ça.
Le public est masqué, vous êtes à distance, vous l'avez enregistré quand ?
On l'a enregistré juste avant le confinement, 10 jours avant qu'on apprenne qu'on soit confiné. Donc on est passé entre les mailles du filet.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces émissions-là que vous n'avez pas connues, puisque vous êtes né en 91 ?
Je suis né en 91, j'ai la chance d'avoir des parents déjà qui m'ont appris, je pense, les bons basiques. Ouais. C'est-à-dire que j'ai grandi avec les sons qu'on va écouter ce soir. On est très karaoké à la maison, donc si j'avais été auprès de mes parents, on aurait fait karaoké, on aurait dansé toute la soirée. Et en fait, d'apprendre aussi cette richesse de ces années-là, 70-80, que j'aurais aimé connaître. Et franchement, en bossant cette émission et en la vivant et en l'enregistrant, J'ai encore plus de regrets de ne pas être né 30 ans plus tôt.
Alors, il y avait beaucoup de mise en scène chez les Carpentiers, régulièrement des scènes de baignoire. Par exemple, là, on voit ce soir Sylvie Vartan qui chante dans une baignoire, ou Joe Dassin, une vraie baignoire avec de la mousse, pas un trucage.
Ah, oui.
Là, il y a une scène de baignoire, mais c'est avec Jérôme Anthony. C'est pas lui faire injure à Jérôme Anthony, lui dire qu'il est moins célèbre que Sardou ou Mireille Mathieu. Mais si on veut comparer avec l'époque, c'est comme si maintenant, il y avait dans une scène de baignoire Benjamin Biolay ou Vanessa Paradis. Ça serait impensable maintenant.
Complètement.
Aucun artiste n'accepterait.
Non, ou un Gad Elmaleh qui se transforme en bécassine. Enfin, vous voyez ce que
ça,
je veux...
c'est possible, parce que les humoristes, oui, les humoristes, c'est plus malléable. Mais les chanteurs maintenant, ils sont tellement orthonormés par les réseaux sociaux, par les managers,
c'est
par
vrai,
le marketing, qu'ils font plus rien, qu'ils sortent de la route.
Mais justement, et c'est là que c'est une émission qui sort de l'ordinaire et une émission un peu 2.0, mais de l'époque. Enfin, vous allez voir une Louane, un Vianney, un Amir dans un jardin anglais très hippie, ouais, et qui se mettent et se prennent au jeu. Jérôme Anthony, certes, dans cette baignoire, mais vous allez voir que c'est un fan incontesté de cette époque, et il va nous transmettre tout ça, tout son savoir.
En même temps, vous n'avez pas connu ces années-là. Moi, j'ai connu les années 70. Je peux vous dire que vous les fantasmez un petit peu. Parce que quand vous annoncez un festival de duo torride, vous savez que tout était bordé, encadré. Les années torride, c'était les années 80.
Ouais.
Le générique, Véronique et Davina, Toutou Youtou, Gin Tonic, où elles prennent la douche seins nus, c'était impensable dans les années 70, impensable chez les Carpentiers. Et juste pour prendre un seul exemple, l'homosexualité était totalement refoulée. Tout le monde faisait semblant, y compris les personnes eux-mêmes. Dave, Hervé Villard, Patrick Juvet étaient hétéros. Et Sylvie Vartan dans la baignoire avec
Mais on en parlera dans les années 80, justement.
C'est pas possible, c'était pas possible. C'était quand même très, très, très corseté.
Vous êtes en train de nous spoiler, parce que pour Allez, viens, Chanel, dans les années 80, donc, qu'on a aussi enregistré, on va parler de tout ça. On va parler de tout ce que vous venez d'évoquer, donc ça sera pour très bientôt.
On va pas spoiler, mais on a encore plein de choses à vous dire et plein de choses et des documents sonores à vous faire entendre. À tout de suite avec Laurie Tillman.
Mariti et Gilbert Carpentier.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laurie Tillman qui présente Allez, viens, je t'emmène chez les Carpentiers, c'est ce soir sur France 3 à 21h. J'ai vu l'émission, évidemment. Il y a parfois de l'humour involontaire dans l'émission, ou alors volontaire, vous allez me dire. Exemple, avec la reprise par Vianney d'une chanson qui avait beaucoup fait parler à l'époque, Annie aime les sucettes, chanson de Gainsbourg à double sens, parce que ce que France Gall n'avait pas compris quand elle l'avait enregistrée, c'est que la chanson parle en creux, pardon s'il y a des enfants qui sont là, de fellation. On écoute, Laurie Tillman, votre présentation.
Je crois que tu t'es amusé à retwister, à réinventer un classique, Vianney, ce soir pour nous.
Ouais, je vais vous faire un petit bout de Annie aime les sucettes.
C'est super, un petit bout déjà. Voilà. On t'écoute.
Vous l'avez mimé, on vous a vu à l'image. Il y a eu des coupes au montage, là, non?
Non, même pas. C'était
après
comme ça.
Après la bonne blague sur le petit bout, non?
Non, mais ouais, vous savez, je suis trop spontanée parfois. Peut-être que ça me rattrape, mais moi, j'aime bien ce genre de petites notes d'humour. Et c'est, d'ailleurs, c'était génial. Cette reprise, elle est formidable. Faut l'écouter. Et même Jane l'a validée.
Vous connaissez l'histoire de cette chanson?
Ah oui.
Racontez.
Enfin, celle que vous avez, celle qui est sous-entendue.
Annie aime les sucettes. Non, non, Annie aime les sucettes. C'est qu'en fait, j'ai découvert en préparant l'émission que c'était les Carpentiers, est-ce que vous le saviez, qui avaient demandé à Gainsbourg
de l'écrire.
D'écrire cette chanson pour France Gall, qui concourait à l'Eurovision
exact.
Pour le Luxembourg.
Oui, bah oui, je l'ai su.
Je vous ai appris un truc.
Ouais, et je crois qu'on en a parlé, mais ça a dû être coupé. Donc merci de me le rappeler, Philippe. Non, mais vous avez vraiment bossé. Hein. C'est beau à voir. Hein.
Comme tous les jours. Merci du compliment. Il y aura d'autres émissions sur le modèle. Vous nous avez dit, il y aura les années 80.
Oui, il y aura les années 80.
Elle est déjà enregistrée ou elle va être
déjà enregistrée. Ouais. Elle est déjà enregistrée. On l'a fait dans la foulée d'ailleurs de cette émission-là. On a tourné ça en deux jours, donc. Et vivement. Mes années 90, 2000, enfin voilà, c'est une émission qui est un produit qu'on peut produire à l'infini. Donc il me tarde de pouvoir parler de cette génération que j'ai connue pour le coup.
Vous avez plein d'actualités, Laurie Tillman. Il y a un livre qui vient de sortir, 365 jours au top first. C'est quoi l'idée de ce livre? Eh ben on vient de l'entendre tomber sur la table, il est lourd. Hein.
Il est lourd. Il est lourd, 388 pages. C'est Je l'ai imaginé comme un calendrier du 1er janvier au 31 décembre, c'est 365 propositions, mais c'est surtout un tour d'horizon, on va dire, à 365 degrés pour cultiver une vie de conseils, de petites choses à appliquer au quotidien, ou juste simplement à lire et se dire, bah tiens, comme un t-shirt que j'ai acheté et que je mettrai dans 3 mois, bah je le ressortirai. Voilà, il y a 3 parties qui le fondent, tonique, organique, positive, de l'acronyme TOP, et une grosse partie green aussi, des citations, des exercices à mettre en place. Comment cultiver une vie, un bien-être et puis des engagements.
Voilà, vous faites beaucoup de choses vous-même, vous faites votre propre dentifrice.
Ouais.
C'est vous qui avez fait votre masque?
C'est moi qui l'ai fait.
Parce
aussi.
Parce qu'il tient pas sur votre nez, je vous
mais
dis juste ça.
Ouais, d'ailleurs, là, j'ai mal fait, les mensurations sont mauvaises, je vous l'accorde.
On est une émission média, je ne vous apprends rien. Et j'étais très intéressé par la page 284. Vous donnez ce conseil, réduisons le streaming. Expliquez, le streaming, c'est quand on regarde des vidéos par Internet. Pourquoi il faut réduire le streaming? Expliquez.
Parce que YouTube, Amazon, Netflix, toutes ces plateformes aujourd'hui qu'on consomme à foison sont très très polluantes, pour le citer, 300 millions de tonnes de CO2 par an, donc c'est l'équivalent en gros de ce que consomme l'Espagne par exemple en internet.
Parce qu'il faut expliquer, quand on regarde une vidéo, ça part d'un data center qui est quelque part, et il faut refroidir les data centers, et ça consomme beaucoup d'électricité pour l'ordi lui-même et pour refroidir l'ordinateur.
Voilà, et c'est la raison pour laquelle parfois de revenir un peu à ses DVD ou alors à ses vieux vinyles, parce que c'est pareil, hein, la musique, parfois on a tendance à l'écouter avec les clips pour que ça fasse une petite veille comme ça dans la maison. Et ben non, aller plutôt sur les streams audio, uniquement audio, parce que les clips, en gros les vidéos, c'est ce qui consomme le plus. Donc avant d'envoyer une vidéo de chat trop mignon, on réfléchit à 3 fois.
Et il y a même ce conseil que vous donnez sur les vidéos pornographiques qui représentent 82 millions de tonnes de CO2. Vous avez une solution contre ça?
Tinder, ça peut marcher. Ou alors on change de partenaire, je ne sais pas.
Voilà, regardez ça. Il y a 10 ans, vous étiez élue Miss France. Cette année, ce seront les 100 ans, ça sera le 19 décembre. Quel regard vous portez sur la cérémonie?
Alors, pour ma part, ça fera 10 ans aussi, donc là je prends un gros coup de vieux. On regardait nos photos, on a bien vieilli depuis. Vous avez gagné des cheveux blancs, moi j'ai gagné des rides, mais on aime.
Ouais.
Et j'ai un regard très doux, très bienveillant sur ce que cette aventure m'a permis d'acquérir. Et puis
rien que
la prochaine.
Et ce qui a changé, rien, MeToo est passé par là.
Oui.
Rien que des filles dans le jury.
Bah oui,
ça signifie quelque chose pour vous?
Que des femmes dans le jury?
Ouais.
Oui, ça s'est déjà produit il y a 3 ans, je crois que j'en faisais partie d'ailleurs du
jury.
Mais parce que justement, Miss France a envie de défendre des valeurs qui sont actuelles, et je trouve que c'est louable, et je félicite Sylvie qui essaie de faire avancer le règlement dans le bon sens au quotidien.
Sylvie, c'est Sylvie Tellier.
Sylvie
qu'on est une émission média, on lutte contre les fake news, d'en dire une, et voilà, vous n'avez pas de ride. Merci beaucoup Laurie Tillman. Je rappelle, allez, viens, je t'emmène dans les années Carpentier.
février. C'est sur France 3 ce soir à 21h. Et on peut aussi vous retrouver tous les dimanches à 10h sur Teva. Ça s'appelle Happy and Zen. Merci d'avoir été avec nous,
Laurie Tillman. Merci, c'est toujours un plaisir.
Pareil. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un hommage au stand-up. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille avec un hommage bien à lui, à la communication du gouvernement. Notre invité, ce sera le... ce sera le contre-ténor français Philippe Jarouski pour son nouvel album La Vanita del Mondo. Et puis dans les indispensables, on va vous emmener dans des concerts très surprenants et puis d'une manière de faire de la cuisine très à la mode. Laurie Tillman, je crois qu'elle connaît déjà ça. Ça sera avec Laurent Mariotte. À tout de suite.
Ah, la chance.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.